théorie du droit constitutionnel et de la démocratie, c'est, je veux dire, apparemment, ce qu'on constate actuellement, c'est en Europe, c'est que les peuples ne peuvent pas voter leur propre disparition. Ils existent à l'insu de leur plein gré. Mais c'est la même chose pour les Italiens, pour les Espagnols, pour les Polonais. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on dit, les sociétés d'Europe orientale ne vont pas bien du tout. Et je veux dire, hors de ce cadre national, la démocratie ne peut pas fonctionner, les individus, les citoyens ne peuvent pas être responsables, on ne peut pas prendre de décisions économiques. Et donc, ce n'est pas juste de se protéger contre les autres. Il s'agit de se mettre dans un cadre où on peut agir solidairement et être responsable de soi.
À quoi ressemble ce cadre, alors, si c'est pas... On revient aux États-nations?
Ben ouais.
Oui, d'accord.
Je veux dire, la nation, c'est un truc qui marche. L'un des raisons des succès de l'Allemagne, c'est qu'elle est dans un trip national depuis 1990. Je veux dire, les gens ne voient pas que les pays qui réussissent ou qui arrivent à retomber sur leurs pattes sont dans des modes de fonctionnement explicitement ou implicitement nationaux.
On va ployer sous une, ça commence sous une pluie de bouquins au sujet de la Première Guerre mondiale.
Oui.
Et je vois déjà les éditos partout qui vont être « Voilà à quoi a conduit le nationalisme et les nations
oui. !»
Je suis sûr qu'on va avoir des éditos comme ça.
On va surtout avoir un chef-d'œuvre de révisionnisme, puisque l'européisme, pour un historien sérieux, est un révisionnisme. La théorie, c'est le thème de la guerre civile européenne. C'était lancé par un Allemand, là, je ne sais plus si c'était Nolte ou un autre, du genre « Oh, c'est affreux, les peuples d'Europe se sont déchirés au XXe siècle, etc. Et l'Europe, il y a mis bonheur. » Ça, c'est une histoire complètement bidon. L'histoire du XXe siècle, c'est l'Allemagne est devenue cinglée deux fois de suite. Et tous les mecs autour en ont pris plein la gueule et il a fallu tenir. Et finalement, c'était tellement violent que ce n'est pas du tout l'Europe qui a résolu le problème. C'est l'armée rouge et l'armée américaine. Mais c'est un révisionnisme. Donc on se met dans ces états d'esprit où les Français doivent se raconter que la Shoah, c'est leur responsabilité.
Oui.
C'est pas vrai, c'est juste pas vrai. Je veux dire, les Juifs en France ont eu le taux de survie le plus élevé d'Europe, malgré Vichy. Oui, donc c'est simplement. J'imagine qu'on va entendre des monceaux d'âneries, alors que dès les premiers jours de la guerre, l'armée allemande en Belgique a commis des atrocités en 1914, en utilisant des civils belges comme boucliers humains.
Et François Ruffin, moi, on se connaît depuis pas mal de temps, je t'ai vu développer ton idée protectionniste, mais timidement, peu à peu, en te disant toujours, si ça se trouve, je suis en train de parler comme au Front National, je suis en train de parler comme Marine. Donc c'est pas évident. Todd, il fait ça depuis... Mais,
Maintenant ça va, et puis bon, oui. Voilà, mais il y a des moments où c'était tangent. Je veux dire, le nombre de mecs qui ont essayé de mettre dans un coin...
Le perroquet de Marine.
Non, ben, c'était avant, c'était une autre époque, oui, oui. Mais c'était une sorte de jeu, je donne pas de nom.
Je pense qu'il y a un truc qui se déroule là, c'est qu'il y a une bataille idéologique interne à la gauche critique. C'est-à-dire que effectivement, pendant très longtemps, se dire que le traité de Maastricht, non, on voyait pas trop. L'euro, est-ce que c'est vraiment une bonne chose? Remettre des taxes aux frontières, pourquoi pas? Ce genre de choses-là était censuré et se produisait une autocensure chez ceux qui se posaient la question. Parce que dominer à gauche, c'est-à-dire avec le Parti Socialiste, l'espoir européen, l'espoir de la libéralisation mondiale. Et par ailleurs, dans la gauche critique, il y avait... un altermondialiste, et il y a toujours un altermondialisme qui espère que le monde va... Il va y avoir une instance qui va gouverner le monde autrement, où les peuples vont se réveiller et orienter le monde autrement à l'échelon mondial, ou un alter-européisme qui espère que les peuples européens vont se réveiller tous de concert et envoyer des représentants différents au Parlement européen, ou alors faire une révolution commune et que ça va bouleverser la face de l'Europe. Et donc, en fait, on a une bataille interne à la gauche critique qui se déroule en ce moment, mais qui se déroule depuis un certain temps, où ces altermondialistes, altereuropéistes, qui sont aussi mes camarades, mes copains, mais ont eu longtemps le vent en poupe, ont dominé la sphère publique, ont été des invités de l'émission Là-bas si j'y suis, ont écrit dans le Monde Diplo et écrivent dans le Monde Diplo et ainsi de suite, et où en ce moment, il y a un groupe informel d'intellectuels qui fait entendre notre son de cloche sur la question de l'euro, sur les questions européennes, sur les questions de la mondialisation, sur les questions du protectionnisme. Il y a Aurélien Bernier, il y a Emmanuel Todd, il y a Jacques
Sapir. Je dirais que ce qui est important, c'est Ruffin et Bernier, parce que la question de la stratification par âge est très importante. Je suis démographe, donc, et actuellement, je commence à militer pour l'extermination de ma propre tranche d'âge. Hein, je suis à 2 ans de la retraite. Et honnêtement, ce que les gens de mon âge pensent n'est plus tellement intéressant. Les idées, en général, ne meurent pas au terme d'une joute intellectuelle extraordinaire. Elles meurent avec